Les informations, Margot Delpierre.
Bonjour à tous. La confrontation a commencé à l'Assemblée. La réforme des retraites est examinée depuis hier dans l'hémicycle. Un baptême du feu pour le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran. Alstom promet que les emplois ne sont pas menacés. Le constructeur français va racheter la branche ferroviaire du Canadien Bombardier. Une grosse acquisition pour Alstom. La Syrie va rouvrir l'aéroport d'Alep aux vols commerciaux cette semaine. Une première depuis sa fermeture en 2012. Explication de notre correspondant dans la région. Les députés ont quitté l'hémicycle un peu après 11h hier soir sans avoir commencé à examiner les 41 000 amendements de la réforme des retraites. Une première journée plutôt chahutée. Le projet de loi examiné en séance plénière est très critiqué par l'opposition qui a un nouvel interlocuteur au ministère de la Santé, Olivier Véran, remplaçant d'Agnès Buzyn. Pierre Neveu, vous avez suivi ses premiers pas.
Il est des journées qui comptent dans la vie d'un élu. Celle-ci sera marquée d'une pierre blanche pour Olivier Véran. À 10h ce matin, Agnès Buzyn lui confiait les clés du ministère des Solidarités et de la Santé.
J'ai une confiance absolue dans la façon dont tu vas gérer ce ministère.
À 16h, il était à la tribune de l'Assemblée pour défendre le projet de loi sur la réforme des retraites.
Mesdames et messieurs les députés, le projet que nous vous présentons est un projet annoncé de longue date. Ce projet a la légitimité d'un programme présidentiel. Il a la légitimité d'une concertation. Il a la légitimité d'un rapport préparatoire conduit sous l'égide de Jean-Paul Delevoye. Et j'espère qu'il aura demain la légitimité large accordée par la confiance des parlementaires.
Et lorsqu'Olivier Véran tente de démontrer la complexité de l'actuel système de retraite et ses 42 régimes spéciaux, les rangs de l'opposition grondent. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, n'est pas de trop pour lui venir en aide.
Continuez, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, regardez droit devant et continuez.
Chahuté lui aussi, le secrétaire d'État aux retraites, Laurent Pietraszewski, défend une réforme synonyme de refondation sociale et ne manque pas au passage de critiquer les députés de l'opposition qui s'apprêtent à engager des manœuvres d'obstruction.
Le droit d'amendement, mesdames et messieurs les députés, est un droit constitutionnel que je respecte, bien entendu. Mais prenons garde que l'obstruction mécanique ne transforme certains députés en robots d'une organisation terroriste d'obstruction.
Ce sont donc deux ministres novices qui vont porter l'une des plus importantes réformes du quinquennat face à une opposition déterminée à débattre des amendements et multiplier les incidents de séance.
Un accord a été conclu hier entre Alstom et Bombardier Transport. Le premier rachètera le second. Une opération coûtant entre 5,8 et 6,2 milliards d'euros. Une grosse acquisition pour le groupe français. Ce projet d'achat soutenu par le ministre de l'économie Bruno Le Maire doit encore être entériné par les autorités de la concurrence européenne. Et ce n'est pas gagné, Raphaël Ebenstein.
Si Bruno Le Maire a aussitôt salué une excellente nouvelle pour la France et le Canada, c'est parce que l'opération se fait avec le soutien des gouvernements des deux pays. Il faut dire que Bombardier, en très grande difficulté financière, n'avait pas vraiment le choix, obligé de multiplier les cessions d'actifs pour éviter la faillite. Le paradoxe est que l'acheteur est plus petit sur le papier que le vendeur, 36 000 salariés au niveau mondial contre plus de 40 000. Mais Alstom, le constructeur historique du TGV, se porte mieux, recentré sur les activités ferroviaires depuis la vente de sa branche énergie à General Electric et affiche même un carnet de commandes record. Reste encore, et c'est loin d'être une simple formalité, à obtenir le feu vert de la Commission européenne qui avait rejeté l'an dernier un projet de fusion entre Alstom et l'allemand Siemens pour cause, selon elle, d'atteinte à la concurrence.
Et nous reviendrons sur Alstom et Bombardier dans le journal de 7h. Le couple Pavlensky-Tadeo doit être présenté à un juge d'instruction aujourd'hui. L'artiste russe et sa compagne, en garde à vue jusqu'à hier après-midi, étaient entendus pour atteinte à l'intimité de la vie privée dans l'affaire des vidéos intimes diffusées sur Internet et qui ont poussé Benjamin Griveaux à renoncer à briguer la mairie de Paris. Pour lutter contre le communautarisme, ou ce qu'il appelle le séparatisme, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Le Qatar finance en partie la mosquée Anour, qui sera, une fois achevée, l'une des plus grandes de France. Il veut renforcer le contrôle du financement des lieux de culte. Arnaud Lacheret, ancien chef de cabinet du maire Les Républicains de Rieux-la-Pape, dans le Rhône, était l'invité du journal de 22h hier. C'est une commune de 31 000 habitants, dont 18 000 vivent dans des logements sociaux. Pour lui, une municipalité doit savoir faire des arrangements transitoires pour faire progresser la laïcité.
Pendant de très nombreuses années, donc pendant quasiment 20 ans, les maires précédents mettaient gratuitement à disposition un gymnase pour les deux cérémonies de l'Aïd, donc les prières du matin, l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Kébir. L'Aïd el-Fitr, c'est celui qui est la fin du ramadan, et l'Aïd el-Kébir, c'est quelques semaines après, où il y avait quasiment 2000 personnes qui s'entassaient dans ce gymnase de 500 places, autrement dit c'était complètement illégal, de manière gratuite, autrement dit si on regarde les dispositions de la loi de 1905, on n'était pas du tout dans les clous. Quand on est arrivé, c'était en mars, en avril, donc on était assez proche de cette période-là, on aurait tout à fait pu dire non, on vous l'interdit. Qu'est-ce qui se serait passé? Il n'aurait sans doute pas été très très agréable, on aurait sans doute plus des prières de rue, ça aurait lourdement affecté le crédit politique de début de mandat, et ben on n'a pas laissé faire, mais disons qu'on a autorisé à titre exceptionnel. On l'a fait pendant plusieurs années en expliquant bien à la communauté qu'il allait falloir trouver d'autres solutions. Et au bout de 3 ans, on a fini par obtenir ce genre de choses. Mais si on avait respecté la loi à la lettre, jamais de la vie, ce gymnase n'aurait pu être prêté. Et au final, cette décision a été parfaitement acceptée. Au bout de 3 ans, ils ont organisé ça, la communauté musulmane a organisé ça, notamment sur le parking de la grande mosquée avec des chapiteaux et des tentes, et les choses se sont très bien passées. Ça fait partie de ces légères concessions qu'on a pu... Oui, on peut appeler ça concession. Disons que ce sont des arrangements transitoires, je préfère dire ça comme ça.
Arnaud Lacheret, propos recueillis par Stanislas Vazak. L'ONU a beau répéter qu'il faut un cessez-le-feu dans la région d'Idlib, les assauts continuent dans le nord-ouest de la Syrie. Ils ont déjà fait 900 000 déplacés depuis décembre. Hier, le président syrien s'est engagé à poursuivre l'offensive. Non loin d'Idlib, les troupes de Bachar el-Assad ont aussi fini de reprendre la quasi-totalité de la métropole d'Alep. Le chef de l'État a même annoncé la réouverture de l'aéroport de la deuxième ville du pays, avec des vols commerciaux programmés dès cette semaine et pour la première fois depuis 2012, Aurélien Colli.
Premier vol entre Damas et Alep mercredi, suivi dans les prochains jours de vols vers Le Caire en Égypte. L'annonce vient du ministère syrien des Transports, quelques heures à peine après la reconquête par le régime d'une ceinture de localités qui lui échappait encore dans la grande périphérie d'Alep. Un succès majeur obtenu grâce à l'appui sur le terrain des milices chiites déployées par l'Iran et qui s'ajoute à la reconquête la semaine dernière dans la province d'Idlib et avec cette fois le soutien de l'allié russe de 2 axes routiers clés reliant Alep à l'attaque qui est le fief du régime, et à Damas, la capitale. L'offensive va continuer, a promis hier soir Bachar el-Assad, indépendamment des discours criards vides qui viennent du nord, a-t-il lancé. Le nord, c'est la Turquie qui a fermé sa frontière pour empêcher un nouvel afflux de réfugiés, mais qui a aussi envoyé 7000 hommes et 2000 véhicules en renfort dans la partie nord d'Idlib, où quelques 3 millions de civils s'entassent désormais, avec rebelles et djihadistes, dans des conditions désastreuses. Leur sort dépend de la détermination d'Ankara face à Moscou, qui soutient ou tient le régime syrien.
Le directeur de l'un des hôpitaux de Wuhan est mort aujourd'hui. C'est l'épicentre de l'épidémie de coronavirus qui a tué près de 1900 personnes en Chine. Les conséquences sont aussi économiques. Parmi les nombreuses entreprises perturbées, citons Apple. Le géant américain des technologies n'atteindra pas ses objectifs de vente ce trimestre. Que vont-ils décider? Les jurés du procès d'Harvey Weinstein se retirent aujourd'hui pour entamer les délibérations. L'ancien roi d'Hollywood est notamment accusé de viol et de harcèlement sexuel et il risque la prison à perpétuité. Malgré des témoignages accablants, malgré les accusations de près d'une centaine de femmes et le mouvement MeToo en toile de fond, impossible de prédire la sentence. À New York, Loïc Loury.
3 semaines d'audience, 30 de témoins convoqués et au bout du compte, une question à trancher. Jessica Mann et Mimi Alei ont-elles été les victimes d'un prédateur sexuel, d'un manipulateur tout-puissant ou sont-elles des opportunistes consentantes? Ces deux portraits sont ceux qui ont été dressés lors du procès, d'un côté par la procureure, de l'autre par l'avocate d'Harvey Weinstein. Pour appuyer la première, des récits, parfois confus mais bouleversants, de 6 femmes, elles n'ont aucune raison de mentir, assure Joanny Lutz-Yorbon qui les a représentées. En face, la défense, pourtant, a remis leurs paroles en cause. La vérité laisse des traces, a affirmé Donna Rotunau. En l'occurrence, des relations consenties, preuve à l'appui, qui se sont parfois étalées sur des années entre certaines des victimes et Harvey Weinstein. Au milieu, 7 hommes et 5 femmes, 12 jurés, sont donc désormais appelés à choisir. Et ce processus complexe pourrait durer longtemps. En toile de fond, en effet, impossible ou presque de faire abstraction du contexte. Le mouvement MeToo, les accusations d'une centaine de femmes parfois très célèbres contre le producteur déchu. C'est pourtant tout l'enjeu des délibérations qui s'ouvrent aujourd'hui. Faute d'unanimité, elles aboutiraient à une annulation pure et simple du procès.
en France. Le temps aujourd'hui sera plutôt ensoleillé. Dans la soirée, la pluie arrivera par le nord du pays. Il fait ce matin 7 degrés à Lille, Paris et Strasbourg, 9 à Bordeaux et Brest, 11 à Marseille et 14 à Nice.